Aucun prophète n'a jamais voulu être prophète. Personne n'a jamais cherché à avoir ce métier-là. Tous ceux qui ont été appelés ont voulu échapper à cette vocation-là. Un prophète ne dit jamais « Votez pour moi, votez pour moi ». Le prophète, on l'avait déjà vu précédemment, est toujours quelqu'un qui essaye de fuir devant l'appel qu'il reçoit de la part de Dieu. En effet, les prophètes, quand on lit les Écritures et quand on regarde l'histoire, les prophètes ont toujours subi les moqueries, les persécutions, ils ont subi les outrages, ils ont subi la violence. Et beaucoup d'entre eux ont été des martyrs. Personne ne veut être prophète, personne ne veut être un vrai prophète. Mais Jésus nous a averti qu'à la fin des temps, il y aurait une multitude de prophètes, de gens qui, eux, chercheraient à être prophètes ou se présenteraient comme tels. Jésus a averti déjà de son temps qu'il s'élèverait de nombreux faux prophètes. Depuis quelques semaines, nous avons regardé ensemble, dans ce moment de culte, ce qu'il en est de l'esprit de prophétie dans les Écritures et aujourd'hui encore. Dans cette dernière partie, j'aimerais regarder un certain nombre de situations liées au prophétisme dans le monde actuel. Les prophètes ont subi des difficultés et des persécutions. Vous vous souvenez de Jérémie ? Jérémie est sans doute celui qui, dans toutes les Écritures, a le plus volontiers parlé de ce qu'il vivait, de ce qu'il ressentait et des problèmes qu'il a rencontrés. Il disait par exemple dans le 11e chapitre de son livre « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie ». Ou bien alors au chapitre 20, il dit « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur, pour consumer mes jours dans la honte ?» Les prophètes souffrent. Les prophètes souffrent souvent d'ailleurs de la part de ceux à qui ils doivent apporter un message de la part du Seigneur, de la part de leur propre peuple, de leurs proches. Jésus disait « Nul n'est prophète en son pays ». Il en est de même avec les prophètes actuels. Et nous avons parlé du ministère prophétique d'Ellen White, qui s'est trouvée elle-même dans la même situation que les prophètes d'autrefois. Elle le dit d'ailleurs très clairement dans le 3e volume de Messages choisis. Elle s'exprime en disant ceci. « J'ai rempli mon devoir. J'ai parlé parce que j'étais poussé à le faire. Ce n'est pas moi qu'ils ont rejeté, mais celui qui m'a envoyé. Je suis surveillé. Chaque mot est critiqué. Chaque mouvement que je fais provoque les commentaires. Je laisse mon travail et ses résultats pour le jour où nous serons devant le grand trône blanc. » Quel droit ont-ils de faire des suppositions, des conjectures et de mal interpréter mes paroles? Ce sont des charognards qui ne regardent plus avec candeur le bien que mes écrits et que les témoignages ont produit, mais comme Satan, l'accusateur des frères, ils regardent le mal qu'ils peuvent y trouver, le piège qu'ils peuvent tendre, le mot qu'ils peuvent tordre pour y ajouter leurs inventions et faire de moi un faux prophète. Ellen White, dans son ministère moderne, n'a pas été épargnée par les critiques, par les commentaires. Elle n'a pas été épargnée non plus par toutes les déformations de ce qu'elle faisait. Elle le dit, c'est le Seigneur qui, au jour du jugement, évaluera le travail de chacun. Et vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, il est dit, leurs œuvres les suivent. Ainsi, les prophètes d'aujourd'hui, les vrais prophètes d'aujourd'hui, ils subissent eux aussi les persécutions. Et les critiques n'ont pas manqué d'ailleurs à l'endroit du ministère d'Ellen White. Et j'aimerais ce matin prendre deux ou trois critiques les plus communes, les plus souvent répétées, pour montrer à quel point la critique est facile, mais en fait, la parole de Dieu est toujours puissante. Beaucoup ont dit qu'Ellen White n'était pas inspirée, parce que l'Église adventiste a dit qu'elle n'était pas biblique. Donc si ce n'est pas biblique, ce n'est pas inspiré. Vous vous souvenez du prophète Nathan, ce prophète qui vivait du temps du roi David. Vous ne trouverez aucune ligne écrite par Nathan dans votre Bible, bien qu'il ait écrit. Il a écrit, mais son livre n'est pas dans votre Bible. Mais souvenez-vous quand Nathan s'est présenté dans la salle du trône et qu'il a vu David, qu'il lui a raconté son histoire et qu'il a pointé son doigt vers David en lui disant « Tu es cet homme-là » Est-ce qu'il n'a pas parlé sous l'inspiration de Dieu ? N'avait-il pas une autorité qui venait de Dieu pour parler au roi ? Son livre n'est pas dans votre Bible, mais il était inspiré par Dieu. Cependant, on a développé dans le monde chrétien d'aujourd'hui une fausse conception de ce qu'est l'inspiration. On pense qu'être inspiré, quand un prophète est inspiré, c'est parce qu'il écoute et puis Dieu lui dicte exactement tout ce qu'il doit dire. Écris. Ainsi, ainsi. Parle, parle. L'Éternel, l'Éternel. Une inspiration dictée. Et vous savez d'où cela vient ? Ça vient en réalité de ce que le diable fait pour déformer l'idée de l'inspiration. Des gens aujourd'hui, inspirés par le diable, vivent ce qu'on appelle l'écriture automatique, où effectivement les démons disent exactement mot à mot ce qu'ils doivent dire ou écrire. Et on a pensé que Dieu fait la même chose. En fait, Dieu fait autrement. Dieu ne dicte pas à ses prophètes. Il inspire ses prophètes. Et lorsque nous disons que la parole de Dieu, la Bible, est inspirée, en fait, c'est un raccourci. En réalité, nous voulons dire que ceux qui ont écrit ce livre ont été inspirés, c'est-à-dire qu'ils avaient l'Esprit en eux. C'est ainsi que les prophètes et serviteurs de Dieu ont pu écrire, étant inspirés par Dieu, pour transmettre le message de Dieu, mais ils vont le transmettre avec leurs propres mots, avec ce qu'ils ont à leur portée pour transmettre le message qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Ellen White, d'ailleurs, explique le phénomène de la même manière. Dans le premier livre des messages choisis, elle écrit « L'inspiration n'agit pas sur les mots ou les expressions, mais sur la personne elle-même. Placée sous l'influence du Saint-Esprit, elle reçoit ses idées. » Le prophète, le serviteur de Dieu, inspiré par Dieu, ne va pas recevoir un texte photocopié ou un email de la part du Seigneur, il va recevoir une inspiration. Il va recevoir le message. Et lorsqu'il a reçu ce message, il est responsable pour le transmettre. Mais plusieurs disent que Ellen White n'est pas inspirée parce qu'elle commet des erreurs. Savez-vous qu'il y a des erreurs dans la Bible ? Ça trouble plusieurs personnes qui disent « Oui, mais s'il y a des erreurs dans la Bible, alors la Bible n'est pas inspirée », en pensant qu'elle a été écrite mot à mot. Prenez un exemple. Regardez dans votre Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. On est là dans ce récit que vous connaissez bien, où Jésus est en jugement quelques heures avant sa crucifixion. Et j'aimerais regarder avec vous dans Matthieu, chapitre 27, le verset 9, où il est dit « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. » Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Maintenant, vous pouvez lire le livre du prophète Jérémie, du premier au dernier chapitre, vous ne trouverez pas ce texte. Simplement parce que notre ami Matthieu s'est trompé. Ce n'est pas le prophète Jérémie qui a écrit ça, c'est le prophète Zacharie. C'est une erreur. C'est une erreur à condition que l'on considère que celui qui écrit inspiré écrit mot à mot ce que Dieu lui dicte. Mais ce n'est pas ainsi que les prophètes de Dieu agissent. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur opère lorsqu'il transmet sa révélation à ses serviteurs. Dieu révèle sa volonté à son prophète. Il lui donne son message. C'est maintenant au prophète de donner à ce message une forme intelligible pour ceux à qui ce message est destiné. Vous vous souvenez de ces paroles ? Il est dit dans l'Apocalypse que Jean a entendu derrière lui une voix qui lui parlait, qui lui transmettait un message pour les églises, et puis il lui est dit « Ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux églises. » Une fois la vision terminée, Jean a la responsabilité de mettre par écrit ce qu'il a vu et entendu avec ses propres mots, dans un langage qui sera compréhensible par ceux qui vont recevoir son message. Ellen White agissait de la même manière, poussée par le Saint-Esprit. Elle écrit ceci dans « Message choisi, volume 1 ». Bien que je dépende de l'Esprit du Seigneur pour écrire mes visions comme pour les recevoir, les mots que j'emploie pour décrire ce que j'ai vu sont les miens, sauf quand il s'agit de déclarations faites par un ange que j'ai le soin de placer entre guillemets. L'inspiration, c'est une incarnation. C'est un message divin placé dans des mots humains. Et c'est cela l'incarnation. Référence à Jésus. L'inspiration, c'est une incarnation. C'est l'Esprit de Dieu qui vient dans un être humain, dans un serviteur ou une servante de Dieu et qui lui donne son message. Il va le transmettre avec ses propres mots. Ellen White dit encore ceci, « Je me sens tout autant dépendante de l'Esprit du Seigneur quand je raconte ou écris une vision » que pendant la vision elle-même. Je ne puis me rappeler les choses qui m'ont été montrées que si le Seigneur me les présente à nouveau au moment où il lui plaît de me les faire décrire par la voix ou par la plume. L'inspiration est donc un phénomène bien particulier dont Dieu seul a le secret. Dieu inspire ses serviteurs pour qu'ils transmettent son message de sa part dans leurs propres mots. Maintenant, une autre critique qui a été tournée contre Ellen White, c'est de dire qu'elle a copié chez les autres. Elle dit qu'elle est inspirée, mais elle va copier ce que d'autres ont écrit et qui n'ont pas, eux, la prétention d'être inspirés. Et en effet, d'une façon générale, 6% de ce que l'on trouve dans les écrits d'Ellen White se retrouve en fait dans d'autres ouvrages qu'elle a utilisés de son temps. Est-ce que Ellen White est une plagiaire? J'aimerais pour ça regarder un texte dans le livre de l'Ecclésiaste. Livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12. J'aimerais regarder avec vous un passage où le sage nous explique comment il va transmettre le message qu'il a reçu. Ecclésiaste, chapitre 12. À partir du verset 11, il est écrit ceci. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Dans ce passage, le sage, Salomon, explique comment ça fonctionne. Il a rassemblé des paroles de plusieurs sages qui lui paraissaient, selon l'inspiration qu'il a reçue, des paroles de vérité. Il en a laissé d'autres, il en a recueilli quelques-unes, il les a mises ensemble, il en a fait un recueil. Et vous avez remarqué, il le dit dans son texte, elles sont données par un seul maître. Même s'il a été cherché à droite, à gauche, des informations ou des paroles de vérité prononcées par d'autres, le fait que lui, inspiré, ait été poussé à les recueillir et à les mettre ensemble, forme un nouvel ouvrage qui n'a qu'un seul maître, Dieu en réalité. Parce que Salomon a été inspiré pour retrouver, recueillir et rassembler des paroles, nous dit le texte, qui sont des paroles de vérité. C'est ainsi que le prophète est inspiré de la part de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le prophète, lui aussi, va utiliser d'autres sources. Il va utiliser des textes dans lesquels il trouve que l'auteur a bien exprimé ce qu'il veut dire et qu'il sait être vrai, parce qu'il l'a reçu par inspiration. Peut-être que d'autres ont de meilleurs mots que lui pour le dire. Jean, auquel je faisais allusion tout à l'heure, dans le livre de l'Apocalypse, a utilisé au moins 22 lignes, disent les experts, d'un texte qui n'est pas inspiré dans le premier livre de Hénoc. Le livre d'Hénoc, qui est un livre apocryphe, a été utilisé par Jean pour extraire certaines paroles qui exprimaient parfaitement ce qu'il voulait dire par rapport à ce qu'il avait vu en vision. Est-ce que cela veut dire que le livre d'Énoch est inspiré ? Non. Est-ce que cela veut dire que le livre de l'Apocalypse ne l'est plus ? Non. Ça veut dire que Jean, poussé par l'Esprit de Dieu, a choisi dans ce qu'il connaissait des expressions, les meilleures, pour exprimer ce qu'il voulait dire, ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait vu, et qui lui permettait de transmettre le mieux possible le message qu'il avait reçu de la part de Dieu. Ellen White s'exprime de la même manière dans l'introduction au livre « La tragédie des siècles ». Plusieurs pages sont destinées à expliquer comment elle a travaillé. Écoutez ceci. Là où les scènes à retracer se sont trouvées résumées par quelque historien, de telle façon qu'elles cadrent avec le plan de cet ouvrage, j'ai cité ses propres paroles et indiqué la source. Mais je ne m'y suis pas astreinte d'une façon absolue, mes citations n'étant pas données comme des preuves, mais simplement en vertu de leur qualité descriptive. C'est exactement ce qu'Ellen White a fait. N'oubliez pas qu'elle n'avait que 2 ans et demi d'école. Elle a trouvé dans certains livres qu'elle connaissait une expression plus parfaite de ce qu'elle voulait dire que ce qu'elle était elle-même capable de produire. Elle les a ainsi utilisés au service du message qu'elle avait reçu de Dieu. En 1981, l'Église adventiste a demandé à un avocat catholique de faire une étude légale pour savoir si véritablement l'utilisation que Mme White avait faite des textes de son temps avait posé un problème légal. Vincent Ramick, c'est le nom de cet avocat, a poursuivi pendant plusieurs années une étude poussée des ouvrages de Mme White et de l'utilisation des sources qu'elle avait faites. En 1981, il va publier un rapport de 27 pages. Et entre autres, dans ce rapport, il dit ceci. Écoutez. Sur la base de notre étude, des faits et des cas de jurisprudence, Ellen White n'est pas un plagiaire et ses écrits ne constituent pas une infraction aux lois sur les copyrights. Tel que cela apparaît dans ses écrits et dans le travail énorme qu'il représente, il est impossible d'imaginer que l'intention d'Ellen White soit autre chose que le désir sincère et désintéressé de donner une compréhension claire et cohérente de la vérité biblique à la portée de tous. Un avis légal d'un avocat catholique qui a lu et relu le livre « La tragédie des siècles » en particulier pour pouvoir faire son étude. Non, Ellen White n'a pas copié. Ellen White a simplement dit d'ailleurs les ouvrages qu'elle avait utilisés en recommandant aux gens de son temps de lire ces livres comme de très bonnes lectures pour les informer sur l'histoire et la manière par laquelle Dieu agit envers son peuple. Une autre critique qui est tournée vers les prophètes en général et aussi contre Ellen White, c'est de dire qu'elle se prend pour supérieure à la Bible ou que l'Église la considère comme égale aux Écritures. Ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'acceptent pas le fait que toute la Bible est inspirée de Dieu. Et ce sont souvent ceux-là qui considèrent que Ellen White prétend être elle-même au-dessus de la Bible. Cette critique était d'ailleurs la critique de Dudley Kenwright en 1887. Ce n'est pas nouveau. Écoutez ce qu'Ellen White écrit dans le livre « Parabole » que vous connaissez bien. La parole de Dieu est présentée aujourd'hui comme mystérieuse et obscure, de manière à excuser la transgression de la loi divine. Jésus a condamné cette manière de faire. Il a enseigné que la parole de Dieu peut être comprise par tous. Il a cité les Écritures comme une autorité absolue. Et nous devons faire de même. La Bible doit être présentée comme la parole inspirée de Dieu, le mot final de toutes les controverses, est le fondement de notre foi. Quand vous lisez d'ailleurs les écrits d'Ellen White, vous vous rendez compte à la lecture qu'elle reconnaît l'autorité absolue des Saintes Écritures et qu'elle présente ses écrits comme étant simplement une paire de lunettes pour les croyants qui n'ont pas pris la peine de lire leur Bible comme ils auraient dû le faire. Si maintenant vous lisez dans le livre « Les croyances fondamentales de l'Église adventiste », le chapitre 18, qui est consacré justement aux Écritures, vous verrez que l'Église elle-même, dans une déclaration officielle et publique de l'Église mondiale, reconnaît que la Bible est la seule règle de foi et la seule règle de conduite à laquelle tout doit être soumis. Les critiques contre les prophètes, ce n'est pas une nouveauté. Depuis toujours, les prophètes, rapportant la parole de Dieu, ont été critiqués, dénigrés. On a voulu faire taire la voix de Dieu par l'intermédiaire de ses prophètes. Mais nous savons aujourd'hui qu'un jour, Dieu présentera toutes choses devant le grand trône blanc. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7, au verset 25, se trouve un passage qui s'applique encore au temps d'aujourd'hui. Dans Jérémie, chapitre 7, verset 25, il est écrit ceci. « Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin, mais ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. » Jésus n'avait averti qu'il y aurait des faux prophètes parce qu'en réalité, à la fin des temps, il y aura aussi des vrais prophètes. Tout ce que Dieu fait, l'ennemi essaye de le contrefaire pour brouiller les cartes et embrouiller ceux qui sont à la recherche de la vérité. Mais l'attitude négative vis-à-vis des prophètes de Dieu, qui était celle même du peuple de Dieu du temps de Jérémie, est souvent aussi l'attitude du peuple de Dieu aujourd'hui, l'attitude des chrétiens, qui, lorsqu'ils ont affaire à un vrai prophète, cherchent mille et une excuses pour ne pas l'écouter. Il est quand même curieux de voir, dans les Écritures d'ailleurs, que les enfants, et je pense à Samuel dont on parlait tout à l'heure dans l'histoire pour les enfants, étaient bien plus prêts à écouter la parole de Dieu que n'était le prêtre âgé qui était avec lui dans le temple. Et je me pose la question s'il en est de même aujourd'hui. En réalité, à la fin des temps, il faut s'attendre à ce que les vrais prophètes soient de la même manière critiqués, rejetés, dénigrés. Écoutez ce que Ellen White écrit dans le premier livre de Messages choisis. « La toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Satan travaillera avec ingéniosité, par différents moyens et différents agents, pour ébranler la confiance du peuple du reste dans le véritable témoignage. Une haine satanique s'allumera contre les témoignages. L'effort de Satan tendra à ébranler la confiance des églises pour la raison suivante. En effet, Satan n'a pas un chemin facile pour amener ses tromperies et lier les croyants dans ses séductions aussi longtemps qu'il prête attention aux avertissements, aux réprimandes et aux conseils de Dieu. La dernière tromperie de Satan, et je crois qu'il y a là un véritable signe des temps, la dernière tromperie de Satan consistera non pas à démolir entièrement la parole de Dieu ou le témoignage qui est apporté par ses prophètes, mais à faire en sorte qu'il n'ait aucun effet, à faire en sorte que personne n'y soit plus intéressé, à faire en sorte que plus personne n'y prête attention. Ah, les écrits d'Ellen White, ah oui, on connaît. Et on passe à autre chose. Pourquoi est-ce que c'est cela la dernière tromperie de Satan? Le texte nous le dit parce que lorsque le peuple de Dieu, lorsque l'Église du reste, ne prête pas attention à ce que Dieu dit, le diable a la voie ouverte pour le faire tomber. Et c'est exactement ce qu'il veut à la fin des temps. Et vous savez, ce texte d'Apocalypse chapitre 12, verset 12, est devenu une actualité. Le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et le temps qu'il aura, il va l'employer beaucoup plus efficacement que nous, il veut l'employer pour détruire. J'aimerais que le Seigneur nous donne la grâce d'utiliser le peu de temps qui nous reste, non pas pour détruire, mais pour construire. Pour donner au Seigneur la possibilité d'achever en nous l'œuvre qu'il a commencée. Et bien entendu, il y a un temps où Dieu veut parler à son peuple plus que jamais. Ce sont les dernières années de l'histoire de ce monde, parce que Dieu a quelque chose à dire à son peuple. Et ce n'est pas surprenant que tant de critiques puissent sortir pour faire taire la voix de Dieu à l'Église du reste dans les derniers jours. Cependant, Jésus avait pleuré sur Jérusalem, qui avait tué les prophètes, qui avait refusé de les écouter. Mais si le peuple n'a pas écouté les prophètes, est-ce que ça vous surprend qu'on ne nous écoute pas non plus aujourd'hui quand on transmet la parole du Seigneur? Le témoignage des prophètes a été rejeté, et Jésus disait à ses disciples, « Ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. » Mais nous demeurons cependant les disciples et les témoins de Jésus aujourd'hui. Ce que Dieu avait dit à l'apôtre Paul, il le dit encore à chacun d'entre nous aujourd'hui. Dans le livre des Actes, au chapitre 18, Dieu disait à l'apôtre Paul, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. » Et l'histoire de l'apôtre Paul nous rappelle à quel point cet homme a vaillamment rendu témoignage de Jésus-Christ. Mais il a rencontré des difficultés et nous en rencontrerons aussi. Dans le livre du prophète Ézéchiel se trouve cette parole. Elle nous décrit le résultat. Lorsque nous continuerons à proclamer la parole de Dieu avec fidélité, avec droiture, que se passera-t-il? Ézéchiel nous le dit dans Ézéchiel au chapitre 33. Au verset 32, il est dit ceci. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Que le Seigneur agisse de la même manière dans notre temps et qu'il revienne bientôt. Amen.